Radio Spirale.
Jean-Pierre Issenoute était certes engagé à fond dans l'espace public québécois à travers son activité de critique littéraire, mais il était aussi paradoxalement solitaire et discret, secret même jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, À Contre-temps présente un portrait très sensible et vibrant d'Issenoute par deux écrivains qui l'ont bien connu, Yvon Rivard et François Hébert. La rencontre était animée par Jean-François Bourgeot.
Au tout début de l'été 2011, Jean-Pierre Issenoute est entré dans la contrée énorme où tout se tait pour reprendre un verre d'Apollinaire qu'il aimait. Si le retentissement de sa disparition fut faible, il n'y a aucun lieu de croire toutefois qu'il s'en serait désolé. Lui qui considérait comme une calamité l'invention de l'écrivain professionnel, celui qui ne cesse de défendre son droit des lecteurs, des subventions, des prix, des commentaires, des égards qu'on ne réserve à aucun autre métier, et suprême fanfaronnade des pleureuses publiques lorsqu'il quitte ce monde, il a eu une mort en conformité avec sa vie, dépouillée, discrète. Maintenant que nous le lisons, pour ainsi dire, à contre-jour, et que chacune de ses phrases fait fond sur le monde de lueurs silencieuses ou j'aime à croire qu'il nous accompagne, il m'a semblé nécessaire de le convoquer par une conversation informelle avec deux des écrivains qui l'ont le mieux connu, Yvon Rivard et François Hébert. Et puisqu'Issenoute ne prisait pas beaucoup la conversation linéaire, lisse, épurée et bien rangée des intellectuels, nous tâcherons, nous aussi, de nous mettre à l'enseigne un peu chaotique de la mosaïque, qui est celle de ses derniers livres, pour en parler à bâton rompu, empruntant les chemins de sable où l'on ne sait plus, parfois, si l'on revient sur ses pas ou si l'on découvre de nouveaux territoires. Donc, Yvon Rivard, François Hébert, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous demandais peut-être pour commencer, étant donné que vous avez tous les deux été des compagnons de route à l'époque des libertés, de me décrire la première rencontre qui était la vôtre avec Jean-Pierre Issenoute. Pour ceux des auditeurs qui ne le sauraient pas, évidemment, c'est quelqu'un qui est né en France, qui est arrivé au Québec par la suite, mais je pense qu'on vous l'avait rencontré, qui était ici quand même depuis belle lurette et qui avait déjà, s'était déjà installé finalement au Québec à ce moment-là.
Je ne me souviens pas de l'année, ce serait trop fort, mais de l'année où je l'ai connu, mais je sais comment je l'ai connu. Je l'ai connu par Guy Lafond, le poète Guy Lafond, qui, lui, connaissait très bien Rina Lanier. Et un jour, Guy Lafond me dit, Rina Lanier m'a parlé d'un jeune poète qui est très intéressant, tu devrais lire ses poèmes. Alors, Guy Lafond m'a apporté des poèmes que Rina Lanier lui avait donné, des poèmes de Jean-Pierre Issenoute. Et c'est ainsi que je l'ai connu. Je les ai fait lire à François et par la suite, on l'a fait entrer à Liberté et puis on ne s'est plus quitté. Voilà. Donc, en fait, le circuit, c'est Guy Lafond, Rina Lanier, moi et ensuite Liberté.
Oui, c'est à peu près ça. Puis Jean-François, tu dis qu'on est parmi ceux qui l'ont le mieux connu. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'était pas un être facile à connaître. C'était quelqu'un de très simple, de très chaleureux, très généreux, toutes sortes de qualités dont on parlera peut-être. Mais quelqu'un d'assez mystérieux et difficile à prévoir en quelque sorte dans ses goûts, dans ses choix, dans ses passions, dans ses petites colères aussi, ses mouvements, quelque chose d'un mouvement atomique, de molécules un peu étranges qui se promenaient dans le monde.
Mais c'est un solitaire, il faut le dire. Moi, je l'appelais notre taureau, le taureau de Laval-Ouest. puis si ça se trouve, je pense qu'il était encore plus solitaire que taureau. Taureau ne voyait pas beaucoup de monde, mais Jean-Pierre, je pense, encore moins.
Oui et non, parce que je pense qu'il les voyait discrètement. Moi, j'ai l'impression qu'il voyait beaucoup de gens, mais discrètement, au bon moment, qu'il les recevait ou qu'il allait, ou en tout cas, qu'il communiquait beaucoup avec eux par... peut-être moins par téléphone, mais par correspondance, par texte. Il a traduit des gens. Je sais que quand il était à Liberté, il tenait beaucoup à suivre les jeunes poètes et à aller chercher dans les petites revues de collège au besoin, s'il n'y avait pas des voix. Puis il nous apportait modestement. Il dit, je ne sais pas s'il n'y a pas une piste là. Donc, c'était un détecteur de talent. Et donc, dans ce sens-là, je crois que... Et puis, au boulot, quand même, nous, on en parle en tant que littéraire, mais il y a un immense pan de sa vie qu'on n'a pas connu. C'est-à-dire qu'il était professeur d'abord à la commission des écoles catholiques de Montréal et ensuite orientateur et sous-directeur ou je ne sais trop des
études.
Conseiller pédagogique. Voilà. Et donc, il avait tous les cas difficiles à régler dans pas mal d'écoles déjà difficiles. Donc ça, c'est un travail sur le terrain qu'il a mené, qui est immense et évidemment assez secret et peu célébré. Sauf dans un de ses livres, Deux passions, où il raconte un peu son rapport avec le monde de l'éducation.
Oui, c'est juste. J'imagine que quand il avait passé 8 heures par jour dans Hochelaga-Maisonneuve, dans une école difficile, il avait le goût de se concentrer sur son jardin l'été et puis sur ses carnets ou sur ses lectures par la suite, c'est vrai. Mais quand on dit que c'était un solitaire, je ne dis pas qu'il ne voyait personne. Moi, je pense qu'il voyait peu de gens, il les voyait de façon discrète, comme dit François, il communiquait beaucoup par correspondance. Mais d'une façon générale, je ne dis pas qu'il était misanthrope, qu'il n'aimait pas les humains, mais il est certain que sa préférence allait d'abord à la nature, c'est très clair. Je ne sais pas si c'est dans son prochain carnet, Géométrie des ombres, il raconte un voyage qu'il a fait sur la côte nord et il dit à un moment donné, ça m'a beaucoup frappé, il vient de dépasser Bécomo, il dit « Le cœur du Québec commence ici. Les régions peuplées du Québec sont des prolongements décoratifs. » Alors, ça dit un peu tout. Jean-Pierre, il ne fuit pas le monde, mais il est plus chez lui quand il est dans une nature plus ou moins sauvage, en quelque sorte.
C'est tout un pan de sa personnalité que son rapport avec la nature. Un autre pan, c'est son rapport un peu étrange avec la poésie, dont on pourra parler aussi.
Ah, bien, c'est sûr.
Et un autre pan, son rapport avec la littérature québécoise.
Oui. Mais si on veut commencer par la base, je pense que c'est la nature. Ça, c'est très, très évident. Et si on commence par parler de son rapport à la nature, à l'espace, on va tout de suite déboucher sur la relation qu'il a entretenue à la fin de sa vie, au détriment de la poésie et même un peu de la littérature. Je dis bien un peu de la littérature. Son rapport avec la science. Alors, il y a comme une boucle, là. C'est quelqu'un, je dirais, qui vient du sol et qui retourne, sinon au sol, à la poussière des étoiles. Il est fasciné par la physique contemporaine. Les 15 dernières années de sa vie, la moitié, sinon plus que la moitié de ses lectures, étaient consacrées à la physique. Ça, c'est clair. Uh-huh. C'est pareil dans ses carnets. Donc, il y a comme une sorte d'interrogation de son jardin, comment faire connaître les sols pour en tirer les meilleurs légumes, les meilleurs fruits, mais aussi une interrogation de l'espace. C'est comme lié. Et ça, je pense, c'est premier chez lui. Et je pense que même quand il lit, ses critères pour définir si une œuvre est bonne ou non, d'une certaine façon, c'est pas l'imitation du réel, mais une sorte de capacité d'invention et de précision qu'il semblait observer dans cette grande machine qu'est l'univers. Il y a quelque chose là de premier chez lui qui fonde. C'est la fondation de sa pensée, de sa démarche et même de sa vie. Il a vécu.
Oui, c'est quelque chose qu'il dit souvent dans ses carnets. Ce qui le fascine dans les sciences, les mathématiques, les physiques, c'est les concepts de suffisance et de nécessité. Suffisant et nécessaire. On voit très bien que quand il fait des critiques dévastatrices, par exemple, dans Le Petit Banc de Bois, il est très... on dit très vitriolique envers les poètes qui s'épanchent, qui n'ont pas les moyens de justement leur surabondance. Et comme on parlait justement du personnage public et du personnage privé, quand même, Issanut, pour ceux qui n'auraient pas suivi dernièrement, il reste que c'est celui qui est connu quand même pour 4 à 5 ans comme critique au Devoir. Est-ce que il y a quelque chose là-dedans qui tient de son refus par la suite de se consacrer à la poésie, parce que c'est clair qu'il n'y est pas revenu?
Bon, prenons la critique. D'abord, je suis content que tu parles du Petit Banc de Bois, puis je suis très content que ce soit que François ait publié ça, parce que c'est une initiative de François Hébert. Et j'ai relu tout ça cet été attentivement, et moi, je trouve que c'est un livre absolument incroyable. Incroyable d'abord pour connaître Jean-Pierre Issanut. On entre vraiment très précisément dans sa bibliothèque, surtout poétique, parce que ça correspond à sa période poétique. Et là, on voit à la trace ce qu'il aime et pourquoi, ce qu'il n'aime pas et pourquoi. Et si j'enseignais encore aujourd'hui et je donnais un cours sur la poésie, je mettrais ce livre au programme parce que c'est incroyable. Alors, quand on lit attentivement Le Petit Banc de Bois, on voit véritablement, au fond, ce qu'on appelle la poétique d'Issanut. Elle tient dans quelques mots que j'ai pris dans Les Petits Bancs de Bois. Précision, sobriété, concrétude, accent de vérité, force d'évocation. Ça, c'est les critères d'une bonne littérature, qu'elle soit poétique, romanesque ou tout autre.
Musique, j'ajouterais.
Musique, mais là... Mais
il a sûrement dit sur son petit banc, là, il a sûrement pensé à un moment donné.
Il parle de l'harmonie dans les carnets, mais ça, donc... Alors, le mot concrétude, c'est un mot qui revient constamment, et le mot précision, sobriété, etc. Donc, tout ce qui ne correspond pas à cela, évidemment, ou bien tombait sous sa foudre, ou bien était complètement ignoré.
C'est tout à fait juste et assez paradoxal, d'ailleurs, qu'il ait eu cette liaison amicale avec Rina Lanier, qui n'était pas un exemple de sobriété, de concision, qui était plutôt un poète assez expansif. Et d'ailleurs, il s'est souvent interrogé lui-même sur ce contraste entre... elle et lui.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, le petit banc de bois, c'est le petit banc où Rina Lanier allait s'asseoir pour méditer. C'est pas le bois est important pour lui, mais le petit, aussi, le banc aussi, la station, le calme, la méditation, et petit, l'adjectif. Je pense que les trois mots définissent Jean-Pierre. Petit aussi, cette modestie, cette discrétion, mais en même temps, cette pénétration, cette précision chirurgicale dans le regard porté sur un poème, sur un texte, sur un comportement. Rien ne lui échappait.
Mais
ce qu'il aimait... Donc, il était sévère. C'est finalement quelqu'un de difficile, de généreux, qui attaquait pas tout le monde, mais quand il attaquait, il attaquait. Mm-hmm. Il avait ses têtes de turc, qui laissait pas passer grand-chose. Donc, quelqu'un de très exigeant, pour lui-même aussi d'abord, je pense.
Il a très peu écrit, ça veut dire à quel point il était très exigeant, je veux dire, c'est certain. Mais toute littérature qui, comme il le dit souvent, une littérature qui se nourrit que de la littérature, il ne pouvait pas supporter. Toute littérature qui n'avait pas pour but la connaissance du réel, c'est un de ses grands thèmes, la connaissance du réel, c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi le prolongement de ce qu'on voit, d'où son intérêt pour la science. Parce que la littérature n'a pas de but de divertissement, si on s'en doute bien chez lui. La littérature, c'est une entreprise de connaissance du réel, d'où toutes les qualités que j'énumérais tantôt, ce serait celle d'un homme de science. Précision, sobriété, concrétude, vérité, etc. À part la force d'évocation, mais encore là, les hommes de science sont des êtres d'imagination, comme on l'a vu avec Einstein. Donc, écrire pour lui, c'est une entreprise de connaissances. Il ne faut jamais oublier cela. Une exigence de vérité.
D'accord. Aussi. Mais je suis entièrement d'accord. J'ajouterais la dimension du mystère chez lui. L'inquiétude, l'ouverture constante, le doute, finalement. Il avait un principe dont il parle plusieurs fois dans ses textes, qu'il appelle le principe ou l'ordre des certitudes ironiques. Mm-hmm. C'est-à-dire que, comme si même les savants, c'était toujours à refaire. Il y a des images assez caricaturales aussi des savants montant, mettant un escabeau sur une chaise, sur un piédestal, sur un trépied, etc. Ça tombe, puis il faut recommencer.
Mais c'est ce qu'il aime aussi chez les hommes de science, c'est-à-dire qu'ils sont sans cesse prêts à tout remettre en question s'il y a une nouvelle observation et tout. Et ça, il admirait ça d'une façon illimitée, en quelque sorte. Ouais. Cette sorte de modestie de l'homme de science qui, au fond, dès qu'il a inventé une théorie, travaille déjà, non pas à la démolir, mais à la dépasser ou à l'améliorer ou quoi que ce soit.
Parce que toujours chez lui, quand on le rencontrait ou qu'on parlait avec lui, c'est ses phrases. Celle de Valéry se terminait souvent par « D'ailleurs, on s'en fout ». Lui, c'est « Oh, ben, je ne suis pas sûr, c'est ce que je pense » ou « Selon moi, peut-être que je me trompe ». Mais il ne se trompait pas souvent, mais il y avait toujours cette, comme pour laisser l'autre libre de
mais
penser
ça
ce qu'il veut
ça
penser.
Ça m'a toujours fait rire un peu, cette sorte de... je ne dis pas que c'est de la fausse modestie dans son cas, c'était loin d'être de la fausse modestie, mais c'est la modestie des gens qui savent beaucoup. Oui. Alors là, il s'excuse de ne pas trop être ça, alors que déjà, il vient presque de nous, pas de nous assommer, de nous montrer avec le peu qu'il a dit, qu'il en sait beaucoup. Alors, c'est comme à l'égard des intellectuels, on comprend, Jean-François a fait allusion tantôt, il n'est pas tendre avec ce qu'il appelle les intellectuels. Plusieurs fois, il dit « je ne suis pas un intellectuel ». Mais là, comme je lui disais souvent, Jean-Pierre, les carnets, tout ce que tu as fait, si ce n'est pas un travail d'intellectuel, qu'est-ce que c'est? Il lisait à peu près 15 livres par semaine, il s'intéressait à tout.
La distinction qu'il fait, je pense, dans le cinquième monde, c'est que je ne suis pas un intellectuel, j'ai des loisirs intellectuels.
Oui.
Je pense que pour lui, c'est une coquetterie, mais en même temps, l'une des raisons pour lesquelles il n'aime pas le milieu de la poésie québécoise, c'est qu'il y a des gens qui posent en poète. Non? Qui posent en poète, c'est-à-dire qu'ils considèrent normal d'avoir des subventions, d'être payé pour. Alors que, il me semble que vous, Jean-Pierre Issanut, la perspective même d'être écrivain et professionnel, c'est une contradiction dans les termes. Pas en faire un métier, parce que c'est un surplus, c'est une grâce dont personne n'a besoin. besoin, selon lui. Il est très,
c'est
très...
C'est très juste. Il est très, mais même, il disait...
Oui, en même temps, on ne pourrait pas imaginer Jean-Pierre sans ça. On ne pourrait pas l'imaginer faisant rien que son potager et tout.
Mais non, donc, il a lu jusqu'à la fin, ça, c'est certain. Mais pour aller dans le sens, il n'aimait pas les gens qui s'en faisaient un métier, non pas qu'il ne reconnaissait pas que c'était un métier, mais il dit, je ne sais pas dans quel texte, et ça c'est capital parce qu'il l'a dit même plusieurs fois, quelqu'un qui ne ferait que le métier de poète est sûr de mal le faire, son métier. Il faut qu'à côté de cela, que tu fasses autre chose. Parce que si tu ne fais pas autre chose qu'écrire, c'est sûr que tu vas perdre contact avec le réel. Et si tu perds contact avec le réel, tout le reste n'est que littérature, comme dit Verlaine. Donc, et c'est pour ça qu'il y avait une véritable passion de la terre, véritable passion de l'éducation. Il l'a bien dit dans son livre qui s'appelle « Deux passions », c'est ça?
Oui.
Et c'est parce que, oui, il aimait enseigner. Il aimait s'occuper de ses élèves défavorisés, là, d'Hochelaga Maisonneuve, mais c'était aussi pour garder contact avec le réel. Il nous a raconté, François est allé, moi je suis jamais allé, son fameux restaurant La Fleur dans l'est de Montréal.
Le Bel Air aussi.
La Fleur ou le Bel Air?
Les deux.
Les deux. Alors là, au fond, quand on l'écoutait, là, il n'aurait jamais pu écrire s'il n'y avait pas... écrire ce qu'il a écrit s'il n'avait pas été dans ce lieu-là. Pas uniquement parce que c'était près de son école, parce que là, il est en contact avec le vrai monde, avec le réel.
La serveuse Jackie.
Avec sa serveuse et tout. Et on sentait que ça l'enracinait, là. C'était très important.
Il avait une autre raison concrète aussi, comme il partait de Fabreville pour aller dans l'est de la ville. Il avait intérêt à partir à 5 ou 6 heures du matin pour ne pas perdre ces heures-là sur la route.
Non, c'est sûr.
Mais... oui, je suis allé le voir quelques fois. Et la dernière fois qu'il était au Café La Fleur avec Gilles Cyr, on est allé le surprendre. On savait que c'était son dernier matin.
Ah, oui, c'est
on s'est pointé là à 5 heures du matin, un peu, yeux chassieux. Un peu.
Il avait quand même son réseau. Là. On dit qu'il était méchant avec beaucoup de gens, mais quand il aimait des poètes, on aimait Gilles Cyr. Il était très...
Oui,
il a très bien écrit. C'est sur des gens qu'il aimait aussi. Là. C'était donc... au fond, quand il l'a dit dans la préface au Petit banc de bois, il dit que comme critique, c'est assez étonnant, il dit que comme critique, sa force et sa faiblesse, c'est qu'il n'était pas très réceptif. Il fallait qu'on me convainque, dit-il, que c'était bon. Donc, il y avait une espèce de combat avec l'auteur. Et quand l'auteur avait la chance de gagner ce combat, bien, il était acquis pour toujours, je parle. Dans le petit Gilles Cyr, Jean-Marc Fréchette, Jacques Brault, il y en a eu Mélenchon, il y en a eu quelques-uns comme ça, qui est resté fidèle.
Dans ce sens-là, j'ai réussi à le corrompre deux fois dans ma carrière, à l'amener à un colloque sur Jacques Brault à l'Université de Sherbrooke. Il a fait un grand texte très intéressant sur son rapport avec la poésie. Et sur un poème de Jacques Brault.
Exactement.
Et un colloque sur Gaston Miron aussi, où justement, il se débattait avec son rapport avec Miron, avec lequel il n'avait pas tellement d'atomes crochus, parce qu'il le voyait comme quelqu'un d'un peu tonitruant, de bavard, un peu écrivain à la manière d'Alain Grandbois. Mais il a réussi à continuer à lire Miron pour y trouver justement des embryons de Saint-Denis-Garneau chez Miron, comme s'il y avait eu une double tentation Garneau et Grandbois chez Miron. Et donc, il s'est battu avec Miron, en quelque sorte, jusqu'à trouver quelque chose qui lui convenait un peu plus, lui parlait.
C'est vrai ce que tu dis, puis il travaille toujours avec quelque chose de très précis. Je me souviens d'avoir entendu sa communication à Sherbrooke sur Jacques Brault. Il avait fait toute sa communication, puis il y avait travaillé, je le sais, 4 mois. Pour faire ses 20 minutes. Oui. Il avait travaillé sur un seul poème.
Un seul poème nocturne pour y trouver
un
fil conducteur, cette idée de fil qui comparait à deux autres poèmes semblables chez Brault, mais où il y avait des étages, c'était pas exactement la même chose. Donc, vraiment comme un géomètre qui travaille sur le poème.
C'est pas pour rien que je l'appelais le taureau. Taureau était arpenteur, mais il y avait quelque chose comme ça chez Jean-Pierre aussi. Et d'ailleurs, il y avait une façon de lire que j'ai vraiment découverte juste sur le tard, que j'ai compris en lisant les carnets et en parlant avec lui. Quand il lisait un ouvrage, par exemple, c'est sûr que moi, j'aime pas Thomas Bernard, lui, il l'aimait.
Oui.
Fait que là, je disais, il faut que tu me convainques pourquoi tu aimes Thomas Bernard. Fait que là, il m'envoyait, c'est par la correspondance, il m'envoyait une phrase de Thomas Bernard qui aurait presque pu être écrite par Peter Handke. Alors là, finalement, je disais, waouh, c'est lui qui a écrit ça. J'ai dit, oui, mais il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Là.
Il savait que c'était comme ça qu'il allait te convaincre.
Oui, aussi. Mais il disait qu'au fond, quand il trouvait une seule chose dans un livre, ça suffisait pour qu'ils disent que le livre avait rempli sa mission. Mmh. Alors, c'est exactement un peu comme je reviens encore à l'homme de science qui cherche quelque chose. Chaque livre était comme une sorte d'avancée dans sa quête du réel. Alors, il trouvait une chose là, dans un poème, un autre. Et c'est ainsi aussi, au mystère, pour nous, en tout cas pour moi, qu'il aimait Houellebecq, entre mmh. autres. Ouais. Alors ça, c'est curieux. Il aime Houellebecq, il le relisait et tout. Parce ouais. qu'il trouvait que Houellebecq avait un style. Il dit, les gens qui trouvent que Houellebecq a un style plate, moi, je leur réponds, Houellebecq, c'est dans Géométrie des ondes, le prochain, là, qui dit ça. Houellebecq a le style des hommes de science. Il est dans ouais. une sorte de précision presque clinique qui décrit les choses et tout. Et ça, ça lui plaisait beaucoup. Pas d'enflure romantique. Il n'aimait pas le romantisme, on le sait très bien. Alors, j'ai goûté, évidemment, moi qui étais un romantique, alors je me disais, mon doux, quelle phrase, il va-tu trouver une phrase dans chacun de mes livres au moins qui va tenir la route? Alors, des fois, il devait chercher beaucoup.
Mais c'est quelqu'un de très critique de la société aussi, hein, que oui. je pense Houellebecq l'était. Oui. Philippe Murray aussi, il oui. le cite plusieurs cite fois. Beaucoup. Guy Debord, il avait un faible pour Guy Debord. Et un certain nombre de penseurs un peu anarchistes oui. sur les bords oui. et... le Québec, il était gentil avec le Québec, mais pas tant que ça. Puis avec la France, quand il est retourné dans les Landes, on peut pas dire que c'est le grand amour. Il est dans son petit domaine ouais, de taureau avec ses canards.
Il aime pas ouais. la France. Il a beaucoup de mal avec la France. Oui. Mais je sais pas, il aime un peu le Québec. Il avait. Moi, je pense que de tous les êtres que j'ai connus, c'est le seul qui avait un tel amour du Québec, y compris tous les Québécois que j'ai connus. Un amour quasi inconditionnel du Québec. Et lui, tu te rappelles, François Liberté, mmh. il nous faisait la leçon parce que nous, on snobait notre patrimoine littéraire. Nous, on n'aurait pas lu Adjutor Rivard, pas Adjutor Rivard, mais J'ai rien à joie.
Ah oui.
Jean Rivard, économiste, il a fait une préface de ce livre-là. Et tu dis ça, tu dis, mon Dieu, il faut absolument que je le lise. Il a fait une préface à Nelly Gant. Donc, les auteurs que nous, on snobait un peu, tu sais, Nelly Gant, mm-hmm. ou bien Gérin Lajoie, on sait que... Lui, il disait, mais ce sont des auteurs très importants. Pourquoi vous ne les lisez pas? Il y avait une sorte d'amour ouais. du Québec qui nous en remontrait.
Avec là. Un point de vue astral, en quelque oui. sorte. Il arrivait de loin ouais. avec quelque chose d'assez ouais. pointu sur Jean Rivard ou sur Nelly Gant. Il allait chercher exactement. Quelques poèmes chez Nelly Gant. Il allait chercher 3-4 détails ouais. chez Jean Rivard. Parce que c'est long un peu, là. C'est pas si bon que
non,
ça,
non. on s'entend. Ben, mais quand on lit sa préface, on se dit, mon doux, oui, il me manque
ça.
Quelque chose.
Comment ça se fait qu'on n'a pas lu ça? Ouais. Comment ça se fait?
Et son amour du Québec remontait à la Nouvelle-France. Alors là, il avait... il se mettait, au fond, je pense qu'il se mettait vraiment dans la peau de ces gens qui étaient des bons bougs, qui n'avaient rien. Parce que c'est quelqu'un qui est très axé sur la paysannerie. Il faut pas l'oublier. Ouais. Il n'y a pas juste son petit potager. Son grand rêve, et il l'a déjà écrit, ouais. il l'a déjà dit, c'était d'avoir une ferme et tout, etc. La paysannerie, pour lui, c'est
il a eu sa petite ferme à Fabreville. Il élevait des lapins en cachette.
Ouais, ouais,
il y en a
ouais, 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 ouais.
quand même pas mal. On
ouais.
n'appellera pas la police maintenant,
c'est
un peu
fini.
Tard.
Mais ouais. Il n'y a plus
il
de lapins, réussi, il reste
sans
les
que
cages.
Les voisins le sachent et ouais, tout. Ouais. Et puis construire sa cabane, c'est comme si son petit domaine de Fabreville était l'île de Robinson Crusoe. Et il s'agissait de repartir de zéro. Ben, ouais. Pas tout à fait zéro, parce qu'il allait dans les cours à scrap,
ouais, ouais.
puis il ramassait des morceaux de bois, des tuiles, des clous rouillés, puis toutes sortes de choses.
Dépotoir.
Et puis, comme ça, il a construit sa petite cabane, ce qu'il raconte d'ailleurs dans ses rêveries, admirablement.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'ai eu la chance de visiter sa cabane, puis c'est assez...
c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Et il en a refait une dans les Landes, toujours en allant chercher ses matériaux dans la décharge.
Même technique
de
récupération.
Il avait le goût des cabanes, il partageait ça avec François Hébert. Moi, ouais, qui suis là, non, mais... j'ai jamais compris ça. Moi, je suis né dans une cabane.
Il m'a aidé pour les miennes dans le bois. Il m'a aidé. Ouais, il m'a montré l'usage de la tronçonneuse et toutes sortes de choses que j'ai développées ensuite.
Ouais.
Et aussi le rapport avec le potager. C'est quand même... c'est un être végétal.
Ouais.
C'est un être végétal. Jean-François, je lirai un poème de lui qui est tout court, qui s'intitule « La poésie » dans « Entretien d'un autre temps ».
Il faudra qu'on vienne sur
écrit,
son abandon de la poésie.
C'est écrit. Pour l'instant, on va être dedans. Là.
Vas-y.
C'est écrit en 1975, c'est-à-dire l'année où René Char publie « Les aromates chasseurs ». Et c'est sa grande période qui commence, 75, 76, 77. « La poésie. Pour les astres chasseurs, visiteurs de ton nid, femme à la tour des voix, l'élan des fleurs élève son larcin à la terre, le parfum de l'exil.
Ah, c'est beau.
C'est tout.
C'est donc, on voit bien l'élévation, là, le rythme, c'est la poésie. La poésie et la fleur, c'est la même chose. Là, tu vois que c'est un...
Le larcin fallacieux.
C'était l'exil, c'est le vol quand même. La poésie a triché. Oui. La poésie a volé quelque chose à la Terre, donc il faudrait y retourner. En même temps, il y a les astres chasseurs, cet appel du haut.
Mais jusqu'à quel point y a-t-il un abandon réel de la poésie chez Jean-Pierre Issanet? Parce que quand on regarde la poésie et la science, on peut très bien considérer que la poésie, c'est l'anticipation de ce que la science représente pour lui plus tard, c'est-à-dire une suffisance et
Une réponse rapide.
La science, ce serait la poésie par d'autres moyens.
J'ai une réponse rapide qu'il faudra nuancer parce qu'elle est grosse, elle est peut-être un peu énorme.
Vas-y, commençons par ça. On la dégrossira.
Tout est affaire de... Tout s'en va dans toutes les directions dans son œuvre. Il y a une sorte de recherche du plus lointain, d'aller chercher là-bas quelque chose. Tout ça pour rassembler comme si chaque chose était la métaphore d'une autre chose. Alors, la science aussi va chercher des choses, mais c'est une démarche quasi poétique. Il entame. Ses canards vivent, il observe ses canards ses canards se promènent à gauche, à droite. Il trace la géométrie des déplacements de ses canards, comme si les canards allaient lui apprendre quelque chose sur la science, sur Dieu, sur la Terre, sur lui-même, sur l'humanité. Donc, le monde est métaphorique. Le monde entier est une métaphore. Alors, la poésie, elle a la part congrue là-dedans, finalement. C'est peut-être pour ça qu'il abandonne ou qu'il se dit « Bon, c'est rien qu'une petite chose que la poésie dans tout ça. »
Ben, ça, je sais pas s'il aurait aimé le mot métaphore.
Non, je sais, mais... les chemins de sable, comme je dis, c'est déjà une métaphore en soi. C'est déjà...
Mais je pense que... que tu dis à la fin, puisque Jean-François disait tout ça là, c'est un chercheur à sa façon, comme tu dis. Exactement. Alors, comme un chercheur, il fait un bout de chemin avec une chose, et quand il pense que ça ne l'amène plus, plus en avant dans sa recherche, il la laisse tomber, il passe à autre chose. Et c'est ainsi que, entre guillemets, il abandonne un peu la poésie pour la science. Mmh. Et le roman, il lit beaucoup de romans à la fin, alors que dans sa période poétique, il en parle dans Le Petit Banc de Bois, il parle du bavardage romanesque. Or, on le voit dans ses carnets, il lit beaucoup de romans. Mmh. Alors, comment se fait que c'était du bavardage romanesque? Et là, tout à coup, le roman lui semble une voie, une façon de connaître le réel, de découvrir d'autres façons. Exact. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est, au fond, qui n'est attaché qu'à une chose, qu'au mouvement de sa propre quête. Mmh. Alors, c'est pas vrai d'associer son abandon de la poésie à une dépréciation de la poésie ou à un mépris de la poésie, pas du tout. Ça n'a rien de rimbaldien, à mon avis. C'est pas... je me suis trompé, c'est pas ça. C'est le temps de passer à autre chose. J'ai tiré ce que j'avais à tirer, moi, de la poésie. Ça veut pas dire que la poésie n'est plus une voie valable pour les autres. Ça, pour moi, c'est très, très clair. Et donc, il y a rarement, même dans ses critiques, là, à part de l'agent littéraire qui l'exacerbait, là, il n'y a jamais vraiment une critique purement négative chez Jean-Pierre. Quand il fait une critique, c'est en fonction de quelque chose vers lequel il s'en va. Alors, la même chose pour la poésie. Quand il cesse de lire la poésie, et d'ailleurs, il le fait sans tambour ni trompette. Il en parle un peu, évidemment, il faut qu'il en parle. Dans Chemin de... J'oublie tout le temps le titre du premier carnet.
Cinquième monde avant.
Le monde de la rumination, comme il dit. Alors, c'est surtout ce qui vient qui l'intéresse, c'est pas ce qu'il laisse derrière lui.
Ben, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, puis que, bon, il a fait deux commandes pour écrire sur la poésie. Le premier étant la communication sur Brault. L'autre, je pense que c'est dans le cadre d'un collectif sur l'enseignement de la poésie. À chaque fois, il dit, ça m'a coûté 4 mois à écrire ces textes-là. Ouais. Ça ressemble à du Miron, là, qui
en ressort complètement. C'est parce qu'il en était sorti. Il l'a fait, parce que c'est François qui...
Oui, mais on dirait que la poésie, pour lui, c'est toujours un immense effort. Alors que l'enfant, ce qui me vient à l'image de Jean-Pierre Issanet avec ses carnets, c'est une immense facilité d'écriture. On a l'impression que ça sort d'un seul coup, ce premier jet, puis que par ailleurs, ensuite, c'est sa femme qui a dit ça, mais lui, il s'en fout un peu, ça l'intéresse pas. Alors que la poésie, si on regarde l'entretien d'un autre temps, c'est d'un tel, tel minimalisme, finalement, que...
Je pense que l'écriture du Café Bel Air, parce que, disons-le, c'est là qu'il écrivait, ou au Café La Fleur...
Il n'y avait pas beaucoup de temps
le
aussi.
Le matin, de 5h à 8h. Moi, j'ai l'impression que... Après, il allait à la bibliothèque, donc il ne faut pas oublier. Il y a le café, bibliothèque, et puis le travail au milieu. Donc, ce n'est pas 8h, là, c'est 12h par jour. Donc, 2 heures d'écriture. Donc, le soir, il devait lire, bouquiner, prendre des livres, prendre des notes. Je ne peux pas avoir lu tous ces livres-là trois fois. Là,
non.
Mais il a retenu des choses importantes qu'il gardait pour le lendemain matin. Donc, il y avait un rythme suivi, là, une rumination constante.
Qui n'est pas
le rythme de la poésie exactement, parce que la poésie, peut-être, c'est l'affaire de concentration, de fondre sur sa proie. Et lui, c'était une démarche évolutive.
Mais il y a quelque chose, j'allais dire, d'un peu maniaque dans sa façon d'écrire de la poésie, comme s'il cherchait le lieu et la formule. Il y a quelque chose qui tend vers une sorte d'équation. Il aimait beaucoup l'équation sensible. C'est quoi le titre du Néron?
De Néron.
Il aimait beaucoup ça. Et dans Le Petit Pont de Bois, il donne un exemple d'un poème qu'il a traîné je ne sais plus combien de temps, 2 ans. Quelque chose comme ça, puis ça marche pas. Et un jour, il l'amène à Rina Lanier, puis elle a dit, ce mot-là, ça marche pas du tout. Puis il dit, je sais que ça marche pas, c'est ce mot-là qui achoppe, je le savais, mais maintenant, quel est le mot? Un autre 4 mois pour trouver le mot. Uh-huh. Alors là, si tu travailles comme ça, mot ou 6 mois, ça explique, un, qu'il y a très peu de poèmes, et qu'il y a une sorte de recherche d'une précision. Je ne sais pas qu'il n'y a pas cette précision dans sa prose. Sa prose est, je trouve, d'une sorte d'impeccable.
Mais je l'ai vu au Café Bel Air aussi. Je m'étonnais comment il y avait une écriture si coulante, si, quand on lisait ses chroniques dans Liberté ou ailleurs. Une écriture qui semblait aller de soi, comme déliée. Puis là, il m'a montré sa feuille. C'était plein de flèches, c'était complètement incompréhensible, là, comme ajout, rature, retour. Et donc, un travail considérable qui se faisait entre l'omelette et le café.
Mais moi, je pense qu'il était conscient de ça, puis il a peut-être essayé aussi de se guérir de cela en abandonnant la poésie. Parce que je sais, à un moment donné, qu'il me disait qu'il reprochait à Votre Bon Cœur de trop travailler sa phrase. Et alors, lui, il disait à Votre Bon Cœur de pas trop travailler sa phrase. Il disait, allez, laisse couler un peu, etc. Alors, je pense qu'il se parlait un peu à lui-même, parce que comme poète, il laissait pas aller.
Non,
c'est comme ciselé, là, ça.
Retenu, c'est ça, absolument.
Et peut-être que la prose lui a apporté une sorte de mouvement ou de liberté qu'il n'avait pas dans la poésie.
C'est ça. Et pourtant, ce qu'il aimait, et ce qu'on trouve pas tellement dans sa poésie, c'était... Oui, c'est une poésie simple. Elle n'est pas si simple que ça, sa poésie, on s'entend.
Elle est très travaillée, elle n'est pas simple.
Pas malarméenne, mais assez quand même...
Mais les niveaux, ceux que tu as identifiés tantôt.
Oui, c'est ça, d'un vers à l'autre et tout. Ouais. C'est pas évident. Et pourtant, les poètes qu'il aime, qui reviennent à Apollinaire, comme tu as dit tantôt, mais Verlaine aussi, il a une grande affection pour Verlaine. Ouais. Et puis le poème de Brault qu'il analyse, c'est un poème simple, plus simples, qui ressemble au petit poème japonais ou chinois, avec la lune qui brille, et puis pas grand-chose, mais avec une petite musique comme ça. D'ailleurs, son rapport avec la musique, avec l'orgue et tout, est assez profond.
C'est très présent.
Très documenté, très érudit, très sérieux. Ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est son rapport avec la peinture, c'est presque absent, alors que la musique, c'est 90% par rapport au pictural. Il y a un bel article sur le saladier de Nicolas de Staël, et puis il y a une analyse d'un tableau de Bruegel, puis là, il se met à parler de Rimbaud, Bruegel, Rimbaud, etc. Donc là encore, il y a des digressions, des avancées, des retours.
Pourtant, ce qu'il admire dans la prose et dans la poésie, c'est la capacité de décrire presque picturalement le réel. Et j'ai pas apporté, il y a un passage mais qui dit, il est en train de lire je sais pas quel auteur, il dit voilà, ça c'est extraordinaire, il cite le passage, il a neigé, etc. Ou bien comme son maître, Hopkins, de décrire très très précisément telle angle, telle couleur, presque, un regard presque géomètre. Mais ça ne trouve pas son équivalent dans l'admiration de la peinture.
Non, on ne trouve pas grand-chose dans ce sens-là. Je reviens à mon idée de métaphore tantôt, parce que c'est pas métaphore et peut-être pas le bon terme, mais il faudrait dire quelque chose comme déplacement, mouvement, brownien, je sais pas moi, enfin quelque chose d'un petit peu ce qui va d'une chose à l'autre et qui engage un rapport avec l'espace-temps.
Métaphore comme contraire. Le mot-clé qui revient dans les carnets, celui-là puis celui qu'on va parler, c'est le mot contraire. Il dit, au fond, que la force créatrice repose sur l'existence et la tension des contraires. Il a appris ça en science, il a appris ça en poésie, et là, on vient à ta métaphore. Évidemment, la métaphore, c'est ce qui fait le lien entre deux choses. Et il cite, à un moment donné, Simone Weil, qu'il a beaucoup lu, Simone Weil, qui dit que la contradiction est le tremplin de la transcendance. Alors, pour lui, et là, ça explique des choses. Il aime Houellebecq, Et en même temps, il va aimer Hopkins. Il aime des choses, des fois, que tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce qu'il fait pour aimer des choses aussi éloignées les unes des autres et tout? Et là, c'est son fameux... Et ça, il a appris ça chez les... en poésie, d'après moi, cette tension-là poétique, et il l'a appris chez les hommes de science. Il dit que... Moi, je ne les connais pas du tout, là, j'ai noté ça. Il dit que la grande idée du 20e siècle, c'est l'idée d'un physicien qui s'appelle Bohr. Bah, c'est boring, mais en tout cas, c'est Bohr. En tout cas, il dit que c'est la complémentarité des contrats. Et ça, ça revient constamment. Dans le chemin de sable, là, c'est tout le temps là.
Oui, j'ai relevé aussi un de ces mots d'ordre, c'est prendre le contre-pied de tout.
Exactement.
Prendre le contre-pied de tout. Donc, les scientifiques, ils viennent, font ça en commençant leur boulot pour expliquer ce qui n'a pas été expliqué ou prouver que ce qui a été expliqué a été mal expliqué.
Et ils disent même que la beauté repose sur ça. La contradiction, en autre citation, est le fond des choses et de la beauté.
Est-ce quelque chose qu'il fait souvent lui-même? Est-ce que le cinquième monde, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est un carnet qui est fondé sur des notes antérieures qui ont été prises au Québec?
Sur lequel il revient.
Sur lequel il revient et souvent avec lesquels il entre en contradiction, justement, exactement. Pour dire qu'il y a quelque chose comme un mouvement de pensée.
Non, la métaphore dans le sens, d'être capable de soutenir une tension entre des pôles, ça, c'est certain, c'est constitutif même de sa pensée.
Oui, puis plus loin que ça, j'ai noté aussi dans l'analyse d'une recherche scientifique quelconque que. L'origine des claquements de langue. Tu sais, quand t'as fait...
Oui.
Il dit que ça viendrait des lombrics. Apparemment, ça serait l'existence...
On y arrive.
L'existence antérieure du lombric en nous qui fait qu'on a une sorte de vers de terre dans la langue. Alors là,
n'importe quoi pour la parenté avec les vers.
Absolument. Non, mais lui est fasciné par cette nouveauté-là parce que, naturellement, les vers de terre, c'était ses meilleurs amis pendant longtemps.
Frères estimés.
Absolument.
Oui. Non, c'est sûr.
Dans ce sens-là. Puis il y a un certain humour chez lui aussi. Peut-être faudrait le signaler. Un certain humour peu sardonique quand il parle de certains poètes québécois qu'on ne nommera pas. Mais un certain humour aussi qui témoigne d'une sorte de réserve, d'une humilité.
Quand il décrit ses canards.
Ça s'amenuise avec le temps quand même. Parce que quand, dans Les Chemins de Sable, il cite Sloterdijk, dit « Le devoir du philosophe aujourd'hui, c'est de résister à la tentation de faire une satire. »
C'est vrai.
Quand on sait que lui-même en a fait plusieurs dans le petit bois d'Ouest, à la fin quand même, le satiriste est envahi.
C'est ça. Mais pas nécessairement satire, mais ça peut être autodérision, par exemple. Je le revois se décrivant dans sa cabane, et puis tout à coup, un étourneau est entré dans sa cabane et se pose sur sa tête.
Oui.
Puis là, il dit, quand l'étourneau s'est rendu compte que je n'étais pas une armoire, il est parti. C'est comme, il y a toujours un petit peu ce côté-là.
C'est canard. Les canards, dans Les Chemins de Sable, d'ailleurs, Marcotte a tout de suite vu, j'allais dire, la dimension romanesque des fameux canards, qui sont les compagnons du solitaire. Il vit seul, plus ou moins, et il y a ces canards, et là, il vit avec eux, et il les décrit. Là. Il y a un humour constant. Chaque fois que les canards font leur apparition dans les carnets Chemin de Sable, tout de suite, il y a une espèce de sourire ou d'humour, et comme il se voit dans les canards, puis là, les canards l'observent, le regardent. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose là, peut-être pas d'ironie, une sorte d'humour bienfaisant à l'égard de ces canards qui lui tiennent compagnie. Mais c'est sûr, dans la vie, il peut être très drôle aussi. On en profitait bien à liberté.
Sa rencontre avec Jean Basile sur son lit de mort, et il faisait des blagues, puis Jean Basile se mettait à rire à mort, tout le monde trouvait ça un peu étrange autour de lui, que les deux étaient en train d'avoir un fou rire assez extraordinaire.
On pourrait peut-être revenir sur... Vous avez parlé de Simone Weil tout à l'heure, et puis bon, on peut voir ce qu'il aimait dans cette prose-là, là, qui était effectivement un peu sèche par moments, mais très limpide, gracieuse aussi. Ouais. Mais aussi, bon, évidemment, la fameuse expérience qu'elle a faite en allant travailler à l'usine pour voir par elle-même justement ce que c'était que le vrai peuple, entre guillemets. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui l'a fasciné de bout en bout. Ça revient constamment chez lui.
Ben, ses origines, il en parle très peu. Et dans Les Chemins de Sable, je pense, ou dans... Son grand-père était quoi? Charpentier, menuisier, et lui dit à un moment donné qu'il lui a laissé deux choses, le mot bonté et...
Des outils.
Et des outils et tout, et il dit que c'est tout son héritage. Et moi, j'ai l'impression que son amour pour le Québec, au fond, s'explique un peu par le fait que au Québec, c'est comme s'il renouait avec ses propres ancêtres paysans ou ouvriers, avec le petit peuple dont il est issu. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une connexion profonde. C'est pour ça que quand il arrive ici, c'est comme il revient dans sa propre lignée, d'une certaine façon. Et chez Simone Weil, c'est sûr qu'il l'aimait à cause de ça. Oui, on n'en a pas encore parlé, mais François y a fait allusion avec... C'est évidemment toute sa carrière... dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est un être épris de justice sociale. Ça, c'est très, très évident. Il est obsédé par ça, comme Simone Veil. Enfin, il ne monte pas sur les barricades. Il n'a pas du tout le tempérament d'un militant. Mais quand on lit véritablement et attentivement, sans tombeau ni trompette, il réaffirme constamment cette sorte d'exigence de justice sociale. Donc, c'est sûr qu'il partageait ça avec Simone
Veil. Sans être un militant, comme Vadeboncœur,
non,
syndicaliste.
Ça, exactement. Il était très prêt.
C'est au jour le jour, les enfants qui arrivaient dans les écoles, qui n'avaient pas mangé le matin, qui ne pouvaient pas travailler parce que si, parce que ça, donc la misère sociale au ras de la société, ça, il la connaissait très bien.
Et puis, il aimait, ça c'est un autre de ses paradoxes, parce que s'il aimait la sobriété, la retenue, la précision, même tout ce qu'il aimait, par exemple, de Hopkins, eh bien, Simone Veil, c'est aux antipodes, mais il aimait ça aussi. Une de ses anecdotes préférées, c'est quand Simone Veil se rend en Angleterre, elle va se présenter pas à De Gaulle directement, mais au comité, puis elle veut former un groupe de presque de boucliers humains, ou enfin d'aller avec des infirmières aller se faire tuer. Puis là, De Gaulle a dit, mais arrêtez-la, c'est une folle et tout. Et ça, chaque fois que Jean-Pierre racontait cette anecdote, on sentait la profonde admiration qu'il avait pour cette folle que Simone Veil. Un être vraiment tellement excessif que ça déroute la raison, ça déroute tout. Et ça, il aimait beaucoup ça aussi. Donc, c'est un être mesuré et tout, et de retenue, discret. Mais je pense que secrètement, il aimait cette sorte de folie ou d'excès qu'il reconnaissait à Simone Veil.
Simone Veil, mais il y avait plusieurs autres figures. Là, je pense, en fait, un passage du Chemin de sable où il fait une série. Tous les écrivains qui ont cherché à se défaire, justement, d'une situation où ils seraient en porte-à-faux par rapport au peuple, qui ont cherché à y revenir, soit en travaillant à l'usine, soit en allant rester dans les quartiers populaires. Puis Denis Rougemont participe à ça, quelques autres aussi. Il dit tout le temps que, l'expérience est concluante jusqu'à un certain point. On voit qu'il s'intéresse beaucoup à ce point-là où, finalement, l'intellectuel se rend compte qu'il ne peut pas y aller jusqu'au bout. Donc, il y a quelque chose qui le retient en arrière. Qu'essaie de voir justement, mais qu'est-ce qu'il retient en arrière? Puis, il disait à certains moments, c'est la conversation qui n'est pas la même.
Mais surtout, il disait qu'au fond, on ne pouvait rien. Un intellectuel ne pouvait rien donner au peuple. Que le peuple n'a pas besoin d'un intellectuel, un, pour savoir ce dont il a besoin, et deux, pour l'obtenir. Alors ça, évidemment, c'est un sujet de discussion entre lui et moi, parce que moi, je trouve que, d'une certaine façon, l'intellectuel, s'il fait bien son travail, il y aura une retombée un jour ou l'autre pour ce qu'il appelle le peuple ou pour les gens même qui ne lisent pas les livres écrits par les intellectuels ou par les écrivains. Mais ça, il y avait comme une sorte de prendre le contre-pied de la vérité avec laquelle peut-être on est trop rapidement à l'aise, à savoir que quand on écrit des livres, si on écrit des livres qui tendent vers la connaissance du réel, qui tendent vers la justice sociale, que finalement ce sera un bien pour le peuple, pour résister à cette bonne conscience, lui il prenait le contre-pied et lui disait... On n'a pas besoin. D'abord, ils ne les liront pas, les livres. Et deuxièmement, ils n'ont pas besoin de nous pour savoir ce dont ils ont besoin, etc. Et ça revient. À Denis de Rougemont, il avait beaucoup aimé le livre. C'est moi qui lui avais donné le livre Journal d'un intellectuel au chômage. D'abord, il tique sur le titre. Il dit d'abord, un intellectuel au chômage, pourquoi il serait au chômage? Y a-tu quelqu'un qui lui a demandé d'être un intellectuel? Alors, il y avait quelque chose comme ça, un peu de raboter les propositions, même comme...
Une méfiance
profondément.
Alors, dans un monde... intellectuel, beaucoup plus, parce que lui, il savait bien qu'il était un intellectuel. Mais, il se débrouille comme il peut dans cette contradiction-là. Et puis, en tant qu'intellectuel, il a fait du bien concrètement dans les écoles et tout, sans leur lire du Denis de Rougemont. C'est sûr. Mais en même temps, lui, c'était quelqu'un de soucieux de l'individu aussi, de l'individuel, du particulier, je pense. Et non, le général, les généralités l'énervaient énormément. Donc, tout ce qui était de l'ordre du système, pourtant, il en cherchait des systèmes, mais toujours axés sur quelque chose de particulier, d'unique, de non répétable.
Et sur des actes.
Donc, il n'en trouvait pas de système, sinon d'avoir ce sentiment, je dirais, du mystère qui l'a trouvé dans son premier titre, Les Entretiens d'un autre temps, c'est-à-dire, c'est pas vraiment conversation d'un autre temps, ça porte à confusion. C'est peut-être entretenir cet autre temps. Il faut soigner cet autre temps, ce temps mystérieux qui nous échappe.
Mais là, avec ce que tu viens de dire, il faut quand même parler de cette autre dimension, cet autre temps, cet autre monde, toute la dimension religieuse chez Isernut, la question de la foi, et encore là, qui ne claironne pas, mais qui est là et qui est pas curieusement, mais qui est très, très enraciné dans sa connaissance scientifique. À la fois dans sa connaissance, je pense, dans une expérience religieuse, mais cette expérience religieuse, on dirait qu'elle s'est renforcée avec le temps par ses avancées dans la science et tout. Et il y a un truc. Quand il fait allusion dans les chemins de sable, je pense à est-ce qu'il y a un autre monde et tout. Et là, il cite, je ne sais pas, je ne sais plus quel homme de science qui lui disait, écoutez, on est apparu ici, on ne sait comment ni pourquoi. Il n'y a rien qui nous dit que ça ne va pas se répéter ailleurs, qu'on ne va pas réapparaître. On ne sait trop comment ni pourquoi ailleurs. Ça, il aimait beaucoup cette idée qui est une idée scientifiquement inattaquable, évidemment. Donc, il y avait ça. C'était pas la base de sa conviction qu'il y avait que la vie ne s'arrêtait pas à la mort, mais je pense que ça venait comme appuyer une sorte de conviction profonde qu'il y a un lien réel entre nous et l'univers et que ce lien ne peut pas être brisé. Alors, c'est très, très... François a utilisé le mot mystère, je pense que c'est le mot clé. Il y a une sorte de respect du mystère, c'est-à-dire, il y a une sorte de foi, dans le sens suivant, dans son texte de présentation à Hopkins, ou dans un autre texte, je trouve que ça définit bien sa foi, il définit le travail d'un jardinier. Il dit, c'est un travail assez difficile, mais qui demande une sorte de foi dans la fin heureuse de cette aventure un peu compliquée. Voilà, j'aurais dû le citer exactement, mais ça prend la foi dans l'issue heureuse à cette aventure un peu compliquée. Il est en train de définir le jardinage et l'agriculture. Et moi, quand j'ai lu cette phrase-là, je me dis, au fond, toute sa conception de la vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, quel est le sens de l'existence? Tiens, il faut avoir la foi dans l'issue heureuse de cette aventure un peu compliquée, je trouve. Et là, on trouve aussi cet humour dont parlait François tout à l'heure. Il y a quelque chose, c'est une question très grave. Là, c'est pas pour le jardinage, mais il y a toujours ça, cette sorte de ne pas trop en faire avec les choses qui n'a pas de réponse, qui ne donne pas de réponse. Le mystère, il s'incline devant le mystère, il le respecte.
C'est ça. Puis le mystère, on peut revenir à son jardin, il faut toujours revenir à son jardin, Jean-Pierre, je pense, à son potager, puis à ses chênes qu'il a fait pousser autour de sa cabane. Il en parlait avec une sorte de discrétion. Quand on le connaissait un peu, il en parlait un peu plus. Puis quand on le connaissait bien, il avouait qu'à l'automne, il se promenait dans les rues de Fabreville à ramasser les sacs de feuilles mortes de tout le voisinage.
Ah, ben oui.
Puis en cachette, il rapportait ça comme un voleur dans les rues. Puis il posait ça. Il posait à peu près un mètre de feuilles mortes sur tout son terrain. Et puis c'était sa foi. C'est une sorte de foi il savait pas. Est-ce que ça va marcher? Son terrain était complètement inculte quand il a acheté, puis après, finalement, le potager, les tomates étaient 6 fois plus grosses que chez le voisin,
etc. C'était intéressant.
Donc, ça marchait au niveau concret.
Oui.
Mais il s'en tenait à ça, puis à étudier, puis à dire peut-être si j'ai des vers de terre plus petits, plus gros, peut-être que si je fais ça, je mets un peu plus de cendres, des cendres de bois
franc. Il était devenu une sorte de spécialiste. Quand il est arrivé dans les Landes, tous les voisins lui ont dit écoutez, monsieur, là, ici, il ne pousse rien là, depuis un siècle et demi, oubliez ça, c'est du sable ici. Eh bien, moi, j'y suis allé et les voisins, paraît-il, ils croyaient parce que c'était des miracles. Il y avait les plus beaux légumes de toute la France. Pourquoi? Parce qu'il a étudié les sols. Puis exactement comme François dit, comme un alchimiste, presque, il mettait un peu de ceci, il faisait des expériences. Et il tenait, comme son ami Thoreau, il tenait une comptabilité. Cette année, de septembre à septembre, 380 haricots et tout. Il faut voir, là, c'est très, très, très précis.
Oui.
Et comment il les a obtenus, etc. Puis il fait des changements l'année suivante et tout. Donc ça, c'est quelque chose.
Il faut y croire. Il faut y croire.
Il ajoute, mais j'aime ça ce que tu racontes, parce que lui, il travaillait les sols et il l'a dit dans un passage de façon très explicite. Non seulement il faut connaître le réel, mais il faut peut-être ajouter au réel. Alors, ce qu'il faisait, il fabriquait des sols. Pour lui, c'était une des grandes activités humaines. Le sol, il existe, mais toi, tu peux en fabriquer. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait fabriquer du sol. Il les fabriquait comment? Comme dit François, il ramassait des feuilles mortes, il faisait des trucs et tout. Et il ajoutait au réel. Il a fabriqué du sol qui n'existait pas.
Alors, tu as dit alchimiste, c'est bien.
Il y a quelque chose de...
J'avais trouvé kabbaliste, ou cabaniste, en fait. Je faisais un jeu de mots avec sa cabane. Parce que tout se passe dans son atanor, dans cette espèce de cabane. déjà pensé pour y vivre de façon complète, bien que sa maison se soit située à peu près à 100 pieds de là. Il allait là quand même pour faire ses travaux, le potager à côté, les chênes tout autour, les oiseaux venaient, tous les animaux qui logeaient sous la cabane.
Non, mais c'est ça. Tout est relié, tout est relié. Ses poèmes, sa cabane, le compost, tout est relié. C'est ce que moi, je retiens surtout. On a dit, oui, il y a des contradictions, mais ces contradictions sont reliées par une sorte de quête ou de vérité. Tu sais, c'est Anne Hébert qui a dit que la poésie, ça donne un surplus d'être, je pense. Mais lui, oui, quand tu fais de la poésie, tu ajoutes un peu à l'air. Et quand tu fabriques du sol, tu ajoutes au réel. Il y a cette idée-là. Que
c'est ça.
Tout ça a un sens.
Oui,
là,
oui, il aimait bien.
Qui collabore en quelque sorte à la création.
Il faudrait prolonger son amour du végétal par son amour du sol, de la pierre, de la terre, du sable, de tout ce qu'il y a en dessous, en fait, et qui permet. Je pense que l'image de l'alchimiste est intéressante, en effet.
Ça lui aurait pas fait peur parce qu'un de ses.
Dont on en parle, non.
Mais, Jacob Boehme était sa grande référence. Il ne faut pas oublier ça, grand mystique. C'était pas un alchimiste, c'est que je cherche, mais pas loin.
Oui, ce terme-là a servi à définir pas mal de gens. Hein.
Mais peut-être qu'il n'y aurait pas. Il aimait ces gens-là, je pense, ces gens un peu. Il aimait les marginaux.
Mais l'idée de l'action, c'est ça que tu as dit, au fond, de l'intervention, du travail, de l'action. C'est pas un contemplatif, quelqu'un qui va, de manière de romantique, se bercer dans sa chaise, puis faire... Non, il fallait faire quelque chose.
C'est sûr.
Et donc, il y avait quelque chose du paysan russe, du moujik ou du redneck ou quelqu'un comme ça qui est vraiment au soleil, dehors.
Qui est dans l'action. D'ailleurs, il est venu quelques fois, puis il est allé chez toi aussi. Il a fait la même chose, puis il a construit la cabane avec toi. Si tu l'invitais chez toi, surtout si tu étais à la campagne, il n'allait pas s'asseoir puis placoter, là.
Non.
Il disait, donne-moi quelque chose à faire. Mais là, ça tombait bien, comme je ne sais rien faire. Il y en avait toujours du travail qui l'attendait. Quand tu viens chez moi, tu amènes ta tronçonneuse, c'est certain, parce que moi, je touche pas une tronçonneuse. Trop dangereux pour moi. Alors, il me faisait tout mon bois de chauffage. Il a fait la même chose chez François. Il a construit la cabane.
Il m'a appris beaucoup de choses.
Mais il a construit sa maison.
Oui.
Bon, il faut pas mythifier. Moi, je mythifie ça parce que je suis nul. François peut construire, Jean-Pierre. Mais si on dit, un être qui a pas construit sa maison, sa vie est inachevée. Bon, je trouve que c'est charrier un peu.
Parce que même si on l'a construit, c'est inachevé.
C'est inachevé. Mais lui, il faut quand même dire qu'il a construit sa maison. Là. C'est avec des matériaux du dépotoir. Il faut le faire. Donc, ça dit à quel point, au fond... Tantôt, en m'en venant, j'écoutais Hubert Reeves qui était à la radio, puis il disait « Le sport préféré de la nature, c'est d'essayer des choses, puis de créer constamment des choses. » Bien, ça définit aussi le créateur qui était Jean-Pierre Izanut. Et il fallait qu'il fasse des choses, qu'il essaye des choses, donc constamment.
C'est un patenteur, c'est un bricoleur. C'est un bricoleur, mais qui tirait les enseignements, rien qu'il patentait pour patenter. Puis je pense que ça vient de son père. Tu as parlé de son grand-père, mais son père avait un fameux potager, ça a l'air du côté de Troyes, là, d'où il vient. Et il s'est rendu compte sur le tard l'importance qu'avait joué son père dans sa vie, parce que lui, il faisait un peu les mêmes choses. Son goût pour les outils, son goût pour le travail, le travail personnel, l'invention, la fabrication de petites machines.
Ouais.
Un côté Léonard de Vinci, au fond. Ouais.
Et puis, c'était un bricoleur, mais il travaillait pas en colon, là, attention. Si on lui demandait quelque chose, puis qu'il ne le savait pas, il disait, je vais y penser. Et là, il faisait des recherches et tout. Puis là, il disait, oui, des fois, j'oubliais même ce que je lui avais demandé. je tenais des choses à faire pour l'occuper, des fois. Et là, j'ai pensé à ton truc, là, etc. Il était allé voir, on pourrait faire ceci. Alors, c'était pas quelqu'un, là, qui disait... Il y a des bricoleurs là, sans dessin, là, c'est-à-dire tout croche. Mais non, lui, c'était la même rigueur qu'il apportait à la fabrication de ses poèmes. Il le faisait pour n'importe quoi, que ce soit son compost ou une cabane. Il aurait été heureux à l'époque de Léonard de Vinci, probablement. Ça, probablement, une époque qu'il aurait aimé.
Faire un
tableau, faire tout, se promener, là, comme ça.
Construire sans sa cabane, mais... Parce que bon, ce qui frappe quand on lit le dernier Issanut, c'est de voir à quel point il semble avoir trouvé dans le carnet une forme qui lui était presque destinée dès le départ. Et puis le carnet en soi, c'est... On hésite même à dire que c'est un genre. Absolument, c'est là où l'on va quand on a renoncé aux autres genres. Comme André Major fait un audio-roman, il va dans le carnet. Bon, l'adieu n'est pas définitif chez Issanut, mais après la poésie, on dirait qu'il va vers le carnet. Et puis le carnet, c'est un peu comme la dernière frontière de la littérature. L'ermitage littéraire, c'est là qu'on va quand quand tous les autres gens sont partis, mais c'est on ne peut pas partir du carnet sans partir de la littérature.
Le carnet, c'est l'éclatement et le rapprochement en même temps. Les différentes dimensions. Tu vas là, puis tu essaies de faire des rapprochements entre les textes et à l'intérieur de chaque texte. Mm-hmm. Il n'y a pas une rêverie à lui où il divague pas un peu, où il ne s'en va pas sur un chemin de traverse, où il n'essaye pas d'aller voir à côté, à un autre domaine. Il passe à la musique, il passe à la science, il passe à son expérience personnelle, il passe à un ami.
C'est ça qui est fascinant. Moi, je pense que les carnets, je ne dis pas que le reste de son œuvre, ses poèmes, il y a quoi? Il y a deux recueils de poèmes?
Un seul qui
a été augmenté par la suite.
Son recueil va rester, mais ses carnets, ça va rester. C'est comme... je veux pas dire que c'est notre Montaigne, parce que je suis pas fou de Montaigne, mais c'est une œuvre. C'est comme Peter Henke, les carnets de Henke. Ça va pas effacer tout le reste, mais je pense que c'est quelque chose qui va rester.
Oui,
c'est
dont les rêveries sont le début un peu.
Exactement.
Ce sont des carnets déjà.
C'est des carnets
qu'on peut comparer à ceux de Jacques Brault aussi, qui sont dans les très beaux textes de Jacques Brault.
C'est vrai.
Peut-être sous-estimés, même.
C'est vrai.
Je crois que c'est de ce
mais la rêverie
là,
est un peu plus filée dans la rêverie de Jean-Pierre que dans les carnets. Les carnets, là, c'est véritablement... Ouais. Et il y a une sorte de... On ne l'a pas dit, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui vont le lire. Moi, j'ai admiré cette sorte de modestie dans les carnets qui consiste parfois à citer en entier ce qui fait les trois quarts d'une page.
Oui.
Là, je me dis, c'est incroyable. Deux choses que j'ai beaucoup aimées. Enfin, là, à cause de Jean-Pierre Izanut, maintenant, je suis rendu un maniaque des notes en bas de page. Parce que quand j'ai lu les carnets, et on s'est dit, mais pourquoi il met toutes les notes en bas de page, lui qui n'a jamais été très, très universitaire? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Parce que je veux citer précisément et dire d'où ça vient, de sorte que si quelqu'un veut aller encore plus loin, il aura le truc. C'est comme une sorte de service rendu au lecteur. Et de pouvoir citer abondamment, et parfois il y a juste deux ou trois phrases à lui qui vient faire ressortir un aspect de la citation. Je trouve qu'il y a une sorte d'humilité là qui revient à la fin de parcours dont tu parles.
Ça atteint un niveau paradoxal parce que bon, par hasard, moi je pensais une page que je pensais qu'elle avait été écrite par Jean-Pierre Izanut, alors qu'en fait ça a été écrit par Fabienne Verdier, je m'en suis rendu compte hier, mais dans mon esprit, comme les carnetistes existent par ses lectures, bon, c'est une scène où. En Chine, il y a quelqu'un qui se prenait avec un grillon dans une gourde, et puis bon, il l'a sortir comme ça, et puis tous les autres fument à ce moment-là. Ils demandent à tout le monde d'arrêter de fumer parce que ça risque de nuire au grillon et tout. Bon, cette page-là que je trouve superbe, pour moi, dans mon esprit, c'était Izanut. En fait, il y en a plusieurs autres comme ça, dont j'ai perdu le nom d'auteur. Et
avec
Burn, en fait.
Avec Burn.
Ah oui,
à un moment donné, il a mis les guillemets, mais il dit, il y a une formule. Est-ce que je serais près de Burn si je disais ceci, deux points, vous les guillemets? Puis là, moi, je suis pas assez cultivé, là, pour savoir, c'est-tu de Bum ou disant. Mais il a mis des guillemets. Mais il a fait précéder, est-ce que je me rapproche. Donc, probablement que c'est de Bum, mais à un moment donné, c'est quelque chose. Donc, il se les approprie, mais avec les guillemets.
Il y a toujours cette réserve aussi, cette heuristique, cette manière d'aller, là, de prudemment. Avec des phrases qu'on revoit souvent dans genre « Si Bum a raison, virgule. » Puis là, il en découle trois, quatre autres choses
et puis il continue.
Mais toujours d'affirmer ce que l'autre affirme puis de voir comme hypothèse. Est-ce que c'est une hypothèse valable? Et si on continue sur cette piste, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence ou concomitance?
Puis il y a une chose aussi dans les carnets qui m'a frappé parce que je ne savais pas qu'il lisait tant de biographies. Et quand on lit ses carnets, on comprend parce qu'il fait un lien constant. Puis il le dit explicitement dans « Chemin de sable » en lisant la correspondance de Mandelstam avec je ne sais pas trop qui. Et là, il cite Mandelstam. « J'aime que quelqu'un fasse ce qu'il dit et dise ce qu'il fait.
»
Alors, une biographie, pour lui, c'était une œuvre parce que c'est la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, c'est une œuvre. Là, on revient à la notion d'acte concret et tout. Donc, c'est pas nécessairement...
Il jugeait les gens d'après ce principe-là, mais c'est aussi un principe de poésie. Hein? C'est un principe poétique. La phrase doit faire ce qu'elle dit, non pas seulement dire ce qu'elle fait.
Exact.
Et donc, cette recherche entre le faire que le son et le sens se rejoignent, c'est une étude très précise.
De la vie, l'heure, le son, le sens.
Dans ses analyses de poèmes et dans ses poèmes à lui, le son, la musicalité est très importante, les consonnes, les voyelles. Enfin, je crois qu'il joue avec ça comme un scientifique avec des particules.
Ouais.
Il fait des expériences constamment. comme ça qu'il lit les équations. Les poètes, quand il lit Verlaine. Et alors, ce qu'il aime, c'est que quand c'est le plus simple possible, sans qu'il y ait apparence de travail derrière.
C'est sûr.
Ça, c'est sacré pour lui. C'est ce qu'il voit.
Et moi, la prose, Jean-François en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'elle coule comme de source, mais quand on la regarde bien, c'est d'une précision et c'est savant.
Mm-hmm.
À un moment donné, il a décrit, c'est dans un des carnets, j'étais jaloux parce qu'il a décrit mon chalet, la rivière et tout. Moi, je vis là depuis. Puis j'ai essayé de faire une petite description à un moment donné, puis j'ai abandonné tellement j'étais nul. Et lui, il vient et il fait tenir ça en deux, trois paragraphes. Et non seulement il décrit très, très précisément, mais là, il a quelque chose d'un peu prophétique parce qu'il voit la configuration des lieux. S'il y a une montagne, il y a une rivière, puis c'est une bande de terrain. Donc là, il imagine que c'est un petit miracle. Cette bande de terrain pourrait être avalée par la rivière ou être avalée écrasée par un éboulis de la montagne. Alors je me suis dit,
il est dans le réel.
Il a décrit ça. Et là, ensuite, il a décrit...
Est-ce qu'il peut réparer ton balcon dans le texte?
Oui, mais là, il est parti trop tôt. Parce que c'était sa prochaine tâche. Alors, non, c'est merveilleux. C'est une leçon, vraiment une leçon d'écriture, à mon avis, qui mérite d'être non seulement apprise, mais enseignée et lue. Alors, j'espère que les gens vont le découvrir, parce que c'est pas... Les gens qui le connaissent habituellement parce qu'il a fait le travail de critique qu'on a évoqué tout à l'heure, où il était libre parce qu'il n'appartenait à aucun milieu, il n'avait pas d'autre ambition. Il appartenait à la liberté, oui, bien sûr, mais il n'avait pas d'ambition. Il n'enseignait pas à l'université, il n'était pas dans un réseau, c'était un athlète.
Ça commençait mal, sa réputation.
Il était
dans aucun réseau.
Oui.
En plus, il était à la liberté, que beaucoup de gens, se méfiaient. Enfin, il était critique au devoir, il s'est fait pas mal d'ennemis.
Il s'est fait plein d'ennemis, puis les gens retiennent surtout ses sorties, comme ça.
Oui.
Et c'est dommage, parce que je ne dis pas que ce n'est pas bon, les sorties, ça nous fait plaisir si on est d'accord avec lui, ça nous attriste si on en est les victimes. Mais foncièrement, c'est un grand prosateur, là. Mmh. C'est peut-être un très bon poète qui a fait une toute petite œuvre poétique en quantité, mais comme prosateur, c'est quelque chose d'unique, à mon avis.
Traducteur aussi.
Et traducteur.
Glisser au moins un petit mot.
Oui, sur traducteur.
Sa traduction des poèmes de Hopkins. Qui est une sorte de Mallarmé anglais. Donc, il faut se lever tôt. Puis il y a beaucoup de gens ont déjà traduit Hopkins, ont essayé.
Bien sûr.
C'est vrai.
C'est
un très beau petit livre. Je ne sais pas s'il est encore disponible chez Fides. L'introduction. Il a fait l'introduction.
Oui.
Puis un choix de poèmes. C'est des traductions de Hopkins, qui était un de ses maîtres, en quelque sorte.
J'avais déjà reçu une lettre de lui où il me disait justement en profondeur à quel point c'était difficile à l'époque où il était à liberté de trouver les écrivains qui ne venaient pas des milieux certifiés, normaux, l'université, le cégep, etc., que ce soit pas des professeurs, parce qu'il détestait la prose de professeur. La sienne est en inverse de ça, évidemment. Je ne suis pas sûr que les choses se sont améliorées depuis. Ça, c'était il y a à peu près 4-5 ans qu'il me disait ça, parce que quelqu'un comme lui, par exemple, qui sort de nulle part, aboutisse critique au devoir, pour moi, ça me semble presque extraterrestre. Là. Je me demande comment ça a pu arriver à devenir
finalement.
C'est en liberté. Je sais que c'est Robert Lévesque qui l'avait, qui l'avait comme engagé.
C'est Lévesque qui l'a plus ou moins engagé,
À cette époque-là. C'était
dans le temps où Liberté avait une influence sur le devoir.
peut-être.
Une certaine influence, peut-être. De certains rapports assez étroits.
Mais c'est sûr qu'il était, comme beaucoup d'autres, une sorte de développement institutionnel de la littérature. Pour lui, c'était comme une contradiction dans les termes. Marcotte avait déjà dit la même chose aussi, tout en contribuant à l'institution de la littérature québécoise. Marcotte disait, c'est dangereux, l'institution, tout à coup, est plus importante que les œuvres. Alors, Jean-Pierre avait aussi cette sorte de méfiance à l'égard de toute la vie littéraire, de l'institution,
du discours convenu, discours
exactement.
Prévisible.
Et à un certain moment, il y a un passage très intéressant où il dit, en fait, ce qu'il reproche aux professeurs, c'est de ne plus être des professeurs tels qu'ils devraient être. C'est-à-dire que l'université, pour lui, avait une valeur en tant qu'elle pouvait être une opposition stimulante pour les écrivains qui écrivent à côté d'elle. Alors, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, les écrivains ont publié, et 3 semaines après, ils sont l'objet d'un colloque. Il y a une absorption immédiate, finalement, de la littérature par l'université qui fait en sorte que l'ancienne dialectique d'opposition, elle existe presque plus, parce que l'université, maintenant, accepte tout de suite ce qui sort, qui est contemporain.
C'est vrai, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Mais là, c'est une position qu'on... qui se défend, parce qu'il faut qu'il y ait des marginaux, il faut qu'il y ait des gens en dehors de l'institution, mais le fait que beaucoup d'écrivains soient à l'université, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va donner de mauvais écrivains. Je pense notamment à Coetzee, le romancier américain. Coetzee, c'est comme ça qu'on prend, non? Prix Nobel et tout. Et c'est une œuvre immense d'un prof d'université. Donc, on ne peut pas faire un truc. Ce qui est dangereux, ce n'est pas tellement que les écrivains, en grande partie, se retrouvent à l'université, c'est que les écrivains écrivent pour l'université et soient immédiatement, comment dire... récupéré par l'université. Mais
c'est un problème sociologique.
Avant, ils étaient journalistes. Je ne suis pas sûr que c'est mieux.
C'est l'université qui va faire vendre les livres parce que l'université va en parler aux journaux, etc. Donc, c'est un fonctionnement.
Mais c'est une position...
C'est pour ça qu'il était marginal.
C'est une position extrême, là. Par exemple, il disait qu'un écrivain ne devrait jamais recevoir des prix ou de l'argent pour avoir écrit. Parce qu'écrire est un privilège. Alors, il ne comprenait pas qu'en plus d'avoir le privilège d'écrire, qu'on soit payé pour écrire. Mmh. Alors, vous savez, c'est une position extrême, là, dont on pourrait dire... Pat Booker disait, c'est un travail, donc ça mérite un salaire. Pour Jean-Pierre, c'était pas ça, là. C'est un privilège, parce que si on compare toujours au monde ouvrier, c'est un privilège d'avoir des loisirs pour faire un travail que personne ne t'a demandé, et en plus, on te paierait pour ça. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Alors, c'est... On est un peu dans le même monde que Simone Veil. Là. Il prend des vérités avec lesquelles on est d'accord, mais on a du mal parfois à le suivre jusqu'au bout parce que là, il pousse la vérité jusqu'à l'extrême. Là.
C'est un peu le grand craint. Il parlait de Paul Dirac, qui est un mathématicien. Il y a ses amis qui s'étaient lancés dans Dante. Et puis Dirac avait dit comment perdre du temps avec de telles inepties. Mais moi, quand je lis Jean-Pierre Issanut, des fois, je trouve que c'est un grand craint assez sévère aussi.
Il est terrible, on en a besoin. Ouais, un de ses héros, c'est dans les carnets. Il y a un mathématicien russe qui a résolu un problème là, qui existait dans ce quel problème, j'ai oublié, depuis 40 ans. Et il y a une fondation qui donnait 1 million. Aux mathématiciens qui réussiraient à résoudre telle équation, je ne sais trop quoi. Alors, il y a un mathématicien russe qui a réussi et il a refusé 1 million, puis il est pauvre comme la gale, là. Parce qu'il s'est dit, ça n'a rien à voir. Lui, il l'a fait parce que c'était comme un... Il a le privilège d'être un mathématicien, d'avoir été assez intelligent pour résoudre ça. Il ne veut pas un salaire pour ça. Et il y a comme une incongruité entre être payé pour un acte d'esprit. C'est quelque chose, là. Alors, Jean-Pierre, il est dans cette logique-là. Et heureusement, c'est le grand craint. Et puis, en un sens, si la pensée est quelque chose de gratuit, bien, soyons conséquents.
On le payait pour sa chronique à l'université.
Si on sacrifie nos droits d'auteur, on ne fait pas un gros sacrifice.
Non, c'est ça, c'est pas grave. Mais il y avait une belle cohérence quand même.
J'aime ça.
Par exemple, il n'est jamais allé à la radio. Il aurait pu aller ou se faire interviewer ou faire des commentaires.
Si, il l'a fait une fois.
À la radio.
Oui, Stéphane Lépine a réussi ce tour de force.
Ah bon? Ah ben.
Non.
Il a voulu.
Il n'est pas allé. Il a fait une émission cet été-là. J'ai entendu ça.
Ah oui?
Ah, il n'est pas allé. Il y a eu une émission sur lui, mais il n'était pas là. T'as raison.
Et puis, dans son milieu de travail, je crois me souvenir qu'il disait que personne ne savait qu'il était écrivain ou qu'il s'occupait de liberté.
Ça, c'était un secret. Ses voisins ne le savaient pas.
C'est ça. Ils voyaient...
Ils l'ont appris...
Ils voyaient le potager, en tout cas.
Ils l'ont appris à sa mort, vraisemblablement, parce que là, c'est difficile de le cacher, mais je pense qu'il n'aimait pas ça. Encore là, je trouve ça admirable, mais en même temps, je trouve que c'est un travail et pourquoi avoir honte de ce travail? C'est parce qu'il avait peur que ça crée un déséquilibre entre lui. Il le raconte dans ses carnets-là. Uh-huh. Il est dans une soirée dans le petit hameau près de Bordeaux où il habitait. Il y a une soirée et jamais il s'est présenté comme étant écrivain. Il s'est présenté comme celui qui pelletait le fumier de l'éleveur à côté. Il était le pelleteur de fumier. Et ça a créé tout de suite une ambiance très, très cordiale. Nous avons passé une agréable soirée. Alors que si j'avais dit que j'étais écrivain, on m'aurait posé des questions et tout. Les pauvres se seraient forcés de s'intéresser à ce qui ne les intéresse pas, tandis que là, c'était parfait. Je comprends
c'est
ça aussi.
C'est un être d'une modestie.
Oui, oui, c'est sûr. C'est admirable.
C'est une modestie supérieure, si on peut dire. Quelqu'un qui...
C'est vrai. C'est vrai.
Qui ne se prenait pas pour un autre, et puis qui pourtant avait des toutes sortes de talents, mais il les appliquait dans le secteur où c'était utile. S'il fallait abattre un arbre, ben, il sortait sa tronçonneuse, puis il l'aiguisait comme il faut, et puis voilà, il était bon tronçonneur.
Exactement.
S'il fallait faire une critique dans la liberté, ben, il en faisait bonne. Puis, mais il ne se vantait pas ni de bien manier la tronçonneuse, ni de faire des bonnes chroniques.
Et c'est ça. Puis il avait une valeur aussi, évidemment, dont...
C'était esclave qui de ta réputation aussi. Tu devais un personnage. Il aurait pu être un personnage avec tout ce qu'il faisait.
Exact. Non, c'est vrai. Il a bien résisté à ça, ça c'est certain.
Oui, parce que bon, il n'y a pas de mythe de l'invisibilité chez lui, contrairement à chez Duchamp, par exemple, qui n'apparaît pas pour ne pas apparaître, alors que lui est simplement en retrait. Donc,
Moi, je ne suis pas sûr que Duchamp le fasse volontairement, là, parce que je pense qu'il est profondément... asocial. Je ne connais pas, là, parce que par définition, on ne le connaît pas. Mais non, c'est j'aime le mot François. Il est très cohérent. C'est pas en vertu d'un raisonnement ou d'un calcul, mais il est cohérent parce qu'il est habité par une vérité. Et cette vérité-là se retrouve dans tout ce qu'il fait.
Cette cohérence, c'était une recherche aussi. Simple, au ras du sol.
Oui. Et puis, c'est vraiment cette attitude de doute. Une des dernières conversations, je lui disais, écoute, c'est incroyable. Puis là, je lui parlais de cette histoire des contraires qui est partout, là, cette complémentarité des contraires, cette vérité profonde des contraires et tout, etc., qui doivent se rencontrer. Et là, je lui parlais de ça, puis il dit, écoute, oui, mais je suis sûr de rien, là, tu sais. Mais j'ai dit, écoute, je trouve ça passionnant, oui, mais là il me dit même qu'il... Il était un peu inquiet que je sois trop passionné par cette chose parce qu'il avait peur que cette vérité-là m'amène dans un cul-de-sac. C'est, tu vois, le genre... Il voulait pas revenir sur ce qu'il avait écrit, mais il était un peu inquiet que j'en fasse déjà comme une sorte de vérité inébranlable, ce que j'ai tendance à faire quand j'adhère à quelque chose. Donc là, il dit, écoute, je suis pas sûr de ça, là, moi, Yvon. Là, on va dire, attention, on va pas... taper sur un mur avec ça. Ben moi, c'est le genre de mur que j'aime bien. Ouais. Alors, c'est parfait. J'avais pas trop de problèmes avec ça.
Oui.
Peut-être pour terminer, si vous aviez un passage à évoquer qui serait Jean-Pierre tout entier réuni dans une formule, une page, un chapitre,
une phrase. Image
éventuellement.
Une petite phrase. Moi, c'est son rapport avec la poésie, je reviendrai. C'est pas quelque chose de clair ni de simple. C'était associé à la mémoire, au travail de la mémoire chez lui. Et il écrivait un poème, puis il se le récitait souvent, puis des poèmes des autres aussi, puis il les apprenait par cœur. Et puis, quand le poème lui revenait sans cesse, il se disait là, ça, c'est un bon poème. Mais s'il était oublié, il l'oubliait, puis le poème disparaissait. Et c'est la même chose avec avec ses poèmes à lui. Il les récitait, puis quand ça le travaillait, ben, il dit, oui, c'est peut-être un poème assez réussi. Et quand il décidait que c'était réussi, il l'écrivait. Puis la formule qu'il emploie, c'est « Je vais tuer le poème en l'écrivant.
» Intéressant.
Donc, je n'aurai plus besoin de cette mémoire. Elle sera... Je suis allé jusqu'au bout.
Mais ça revient à l'idée d'abandonner une chose quand la chose a fait son temps. Et moi, il y a une phrase, je l'ai notée, puis je l'ai sous les yeux, mais je ne pensais pas que ça servirait de conclusion. Je pense que c'est dans... Je sais pas si c'est dans les prochains carnets. Il dit « Après moi, la nature va continuer son ouvrage sans ralentir. » Sans ralentir, et j'aime l'idée qu'il en soit ainsi. Pour moi, je trouve que Jean-Pierre Rizanet est là-dedans. C'est-à-dire, si on la lit attentivement, la nature va continuer son ouvrage après moi, sans ralentir. Et ça veut dire qu'au fond, pendant qu'il était là, il collaborait à cet ouvrage. Mais elle va continuer sans lui, et c'est très bien. Alors, il y a cette idée qu'il participait d'une chose, et quand il ne sera pas là, cette chose va continuer, et c'est très bien. Alors, je trouve que ça... Pour moi, tout le personnage, tout l'homme est dans cette phrase-là.
J'espère qu'il n'aura pas construit ce qu'on vient de faire comme un privilège indu qu'on lui accorde. Je le vois plutôt comme une conversation qui est une manière de poursuivre celle qu'il a entamée dans ses carnets. Donc, je vous remercie beaucoup, Yvon Rivard et François Hébert.
Merci à toi.
Un plaisir.
D'accord.